Le domaine des possibles, une émission proposée par Christian Faure.
Amis auditeurs du domaine des possibles, bonjour. Le domaine des possibles s'attache à tous les possibles dans le contexte d'une transition sociale. Et il est un domaine qui nous intéresse particulièrement, c'est le domaine de l'éducation. Pourquoi l'éducation ? Parce qu'il nous paraît fondamental, si nous voulons transmettre nos prises de conscience à nos enfants et en faire des adultes capables de sortir des modes de vie et de pensée uniformisés, de pratiquer des modes d'éducation responsables, inventifs, coopératifs, alternatifs et j'en passe. Il y a des écoles qui suivent ce chemin différent, où l'enfant serait plus présent au sein des préoccupations des enseignants, plus écouté, plus considéré peut-être. Parmi ces écoles, d'aucunes défendent les langues régionales comme des langues vivantes, vestiges structurants de nos histoires régionales, et comme un moyen de pratiquer tôt le bilinguisme. Je reçois aujourd'hui dans le domaine des possibles un faiseur de possibles, un amoureux de la parole, un guerrier-héros de la langue occitane et de l'éducation, un comédien aussi, mais ce n'est pas le comédien que j'ai invité, même si on le sent toujours pointé derrière le responsable des établissements scolaires Calendretta. Bonjour Jean-Louis Blenet.
Adieu.
Jean-Louis Blenet, je sais donc que vous défendez ardemment la langue occitane et donc son enseignement à travers ces établissements dont on va parler aujourd'hui. Et donc j'aimerais savoir dans un premier temps comment vous est venue ou est venue aux gens qui les ont créés l'idée de ces écoles qui enseignent l'occitan entre autres choses.
D'abord pour toutes les raisons qui ont dit, que vous venez de dire, sur l'enseignement, sur l'importance de l'école. On est des citoyens comme les autres, donc c'est des questions qu'on se pose et auxquelles on a envie de porter des réponses. Donc ça c'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est que la transmission pour une langue, il est indispensable qu'il y ait l'école. Quand il n'y avait pas, les langues ont vécu pendant des siècles avec des gens analphabètes qui trouvaient du travail sans problème. Bon. Mais depuis qu'il y a l'enseignement, qu'il y a dans notre société toutes les façons de faire, une langue ne peut pas vivre si elle n'est pas enseignée. Or, elle n'est pas enseignée, l'État français est culturicide, il est linguicide. Donc il ne veut pas faire vraiment l'enseignement de nos langues, et si on veut donner de l'avenir à nos langues, quand on a un enfant, c'est de l'avenir qui est là, et en plus qui compte le temps, parce qu'un enfant c'est un calendrier, c'est même un chronomètre, et bien donc il fallait faire des écoles pour qu'il y ait la première socialisation de l'enfant qui se fasse dans la langue, et perdonada venidou à la langue.
D'accord. Et question un petit peu de détail, mais qui doit avoir son importance. D'où vous est venu ce nom de Calendrette ? Alors que vous prononcez comment d'abord,
c'est,
et qui veut dire
c'est
quoi ?
Calendrette et pas Calendrette. Mm-hmm. Calendrette, c'est le nom d'une alouette, d'une espèce d'alouette, et c'est un mot invariant dans tous les parlers d'oc, que ce soit en provençal, en limousin, en gascon, en languedocien. Donc c'était bien, en plus il y avait un autre mot, il y a une autre chose qui a aidé un peu aussi, c'est qu'il y a certains endroits des Pays d'Oc où on dit une calandrou pour dire un gaffet, pour dire un apprenti.
Ah oui.
Et donc bon, ça tombait bien, et voilà, donc c'est pour ça qu'on a pris ce mot.
D'accord.
Et puis, bon, c'est un oiseau, c'est sympa.
D'accord, ok. C'est une jolie idée. Et c'est vrai que quand on entend ce mot et qu'on ne connaît pas la langue, on n'imagine pas du tout qu'il s'agit d'un oiseau. On se demande ce que vient faire une calandre dans l'enseignement. Donc c'est bien d'avoir une explication, je trouve.
Voilà, voilà.
Ben ça serait intéressant qu'on sache un petit peu comment vous vous êtes, à quelle époque vous avez commencé à exister, d'où est venu ce mouvement, puisque je crois qu'il y a des écoles qui enseignent les langues régionales ailleurs qu'en Occitanie. Donc ça serait bien que vous nous parliez un peu de ça, de nous fassiez un historique un peu rapide.
Ouais, ça a démarré dans le bourboule des années 70, qui elles-mêmes ont suivi 68 et qui ont fait que beaucoup de gens se sont donné des permissions que jusqu'à présent ils ne se donnaient pas. Mm-hmm. Donc à quoi liga t'avais la jeunesse, t'avais bon, alors on a des, comme disait un poète occitan, avait décidé d'avoir raison. On a décidé d'avoir raison. Ouais. Et donc on a fait des choses. Donc c'est la première calendrette démarre en 79 à Pau. L'association a démarré un an ou deux avant, puisque c'était un travail compliqué de monter une école. J'imagine, et puis de se donner le courage, la première. Puis à même temps, juste quelques mois après, ça démarre à Béziers. Voilà, et c'est vrai qu'il y a eu d'autres des devanciers. Hein. Il y a les Basques qui ont fait, en immersion, hein, je parle de l'immersion. Ouais. Il y a les Basques qui ont démarré 10 ans avant, les Bretons 2 ans avant nous. Les Catalans à peu près, à même temps, et les Alsaciens qui étaient sur du bilinguisme à parité horaire sont en train de basculer maintenant dans l'immersion parce qu'ils trouvent que c'est la méthode qu'il faut pour être efficace hein, et pour faire vraiment des locuteurs, c'est-à-dire des enfants émetteurs qui ne pas uniquement comprennent mais parlent. Voilà, donc ça s'est fait comme ça, on travaille ensemble, d'ailleurs, l'ensemble des langues régionales qui font de l'enseignement en immersion. Moi, je suis président d'un institut de formation des maîtres qui est commun aux Alsaciens de ABCM, de Speichpraarigkeit. Hein, j'ai pris des cours. Qui est commun aux Bretons de Diwan, aux Basques de CHK, aux Catalans de Bressol et aux Occitans de Calendrette. Et donc, on travaille ensemble. On vient de faire un grand colloque à Quimper et une AG, donc on n'est pas dans l'enfermement historico-linguistico-communautariste où les monolingues français veulent repousser et renvoyer tous ces gens qui sont bilingues.
Ouais. C'est intéressant comme position et c'est bien de savoir que ça existe dans notre région, que ça n'est pas un cas isolé. Et est-ce que c'est un mouvement, ce mouvement donc d'éducation en immersion et dans des cultures régionales, est-ce que c'est un mouvement qui a tendance à se développer ?
Oui, beaucoup. C'est un mouvement laïque, hein, je le dis. Hein. Ouais. On a créé des écoles laïques, on a créé des écoles pour faire des citoyennes dans une société avec une pédagogie particulière. Donc ça se développe, oui. On a beaucoup, beaucoup de demandes. Parce que contrairement à ce qu'on croit, les langues régionales ont finalement du vent dans les voiles parce que les gens ont compris que le premier lieu de la bataille pour la défense et la diversité culturelle, c'est d'abord, c'est ici. Ouais. C'est ici. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller, il n'y a pas que la Patagonie.
Ouais.
Mais nous, ici.
Comme l'écologie, on a nos langues.
C'est comme l'écologie, ça commence à se faire devant la porte.
Ouais.
Ouais, on peut toujours faire des grandes incantations, demander aux autres de faire, mais il faut faire d'abord chez soi. Voilà. Donc nous, on défend, et la demande est liée. Je vais donner un chiffre, à Montpellier, on a 550 enfants. Bon, c'est pas énorme.
Qui s'étale du primaire à la fin du secondaire.
Jusque actuellement en première.
D'accord.
On aura le bac, là, enfin, la terminale, normalement, l'an prochain.
D'accord.
Donc, 550 à Montpellier. On a refusé 300 enfants en petite section l'an dernier.
Ah, oui.
J'ai de quoi créer 15 écoles. Et on ne fait pas la couette d'une publicité. Donc, oui, il y a de la demande partout. On a des difficultés avec tout ce qui est État. Et même, on a des soutiens des collectivités. Mais qui pourrait être quand même beaucoup plus niakous, par exemple, au niveau département, au niveau même à la région, il faudrait que ça pousse un petit peu plus.
Ils y vont à reculons.
Ils y vont au département en reculons, oui. Ensuite, à la région, ils y vont, mais sans prendre en considération. Quand on veut faire un pont, on ne dit pas, écoutez, on va vous donner un camion de sable, 10 sacs de ciment, et puis un peu quelques poutrelles, et puis vous vous débrouillerez. En fin de vie, on dit, il faut faire 5 arches, et bien on m'amène le travail, les choses pour faire 5 arches.
Ouais.
Voilà, et on ne dit pas, écoutez, débrouillez-vous, voilà, regardez, on est brave, alors vous mettrez le logo, parce qu'on a aidé, on a apporté un peu de... Voilà, donc on est... Mais pour répondre à la question, effectivement, il y a une demande forte.
D'accord.
Et j'ajoute que... Pour reprendre sur ce qu'on disait tout à l'heure, les Corses vont venir à l'immersion.
Ah oui.
Voilà. Les Corses.
Alors qu'est-ce que vous entendez par immersion ? Parce que ça fait plusieurs fois que vous prononcez ce terme-là. Ça, est-ce que ça veut dire que les enfants qui arrivent parlent occitan, ou bien alors que vous leur apprenez d'abord l'occitan et qu'après tout l'enseignement se passe en occitan ?
Alors là, il faut parler de je vais répondre sur l'immersion, hein.
Ouais.
Mais quand on apprend, on parle des langues, on dit une langue, elle est enseignée, puis on dit, oh, c'est mieux quand elle est enseignante, voilà, et ben, tout ça c'est pour finir par la parler. Alors qu'en fait, les choses dans la vie, ça se passe à l'envers. D'abord, un enfant, quand il a 2 ans, il est avec des gens qui parlent une langue.
Ouais.
Voilà. Et ensuite, on lui enseigne dans cette langue. On lui dit, attention, pichu, tout m'espace, vas tumba, tout qu'espace à quoi, ne touche pas ça, ça crame. On lui enseigne, t'es ça, à cause des pastinards, ça c'est des carottes. Voilà, on lui enseigne. Et une fois qu'il sait parler, on lui enseigne la langue. C'est-à-dire, on lui dit que dans la chose qu'il parle, il y a des verbes, de la concordance des temps. On peut vivre toute sa vie, appliquer parfaitement la concordance des temps sans connaître l'existence de la règle, sans la conceptualiser. Donc l'immersion, c'est exactement le même chemin. Un pichou, quand il est pichou, il dit pas, quand son père lui dit un mot nouveau, « Ah, espère papa, je veux prendre un crayon, je vais le noter, tu te rends compte de ce que tu viens de me dire. » Non, il enregistre, il est là, il barbote dans la langue. Donc voilà, donc l'immersion, c'est de dire qu'il faut que prendre ce chemin qui est le chemin naturel, le chemin normal. Donc nous... et puis que ça veut dire aussi l'immersion même par rapport à la parité horaire, c'est-à-dire moitié du temps en oc, moitié du temps en français.
Donc,
c'est la différence entre la piscine et la douche. C'est vrai qu'avec la douche, tu sais ce que c'est l'humide, mais tu n'apprends jamais à nager. Et pour nager, il faut que tu te mettes dans la piscine, et puis même que tu mettes la tête sous l'eau. Tant que tu ne sais pas mettre la tête sous l'eau, tu ne sais pas nager. Donc l'immersion, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait aux enfants? On leur parle une quand ils sont bekele et caribou, uniquement en Utsita. Bon, évidemment, au début, on aide un petit peu quand caribou, mais après, le vocabulaire à l'école, perdus bekele, t'es pas quand même à tomber par terre.
J'imagine.
Donc c'est vite enregistré. Ils apprennent à lire dans la langue qui est cible. Pour nous, c'est l'occitan. Pour les basques, c'est le basque. Voilà. Et une fois qu'ils savent lire, moi j'ai 4 enfants, je les ai jamais vus apprendre à lire en français. Quand ils ont appris le mécanisme, ils transcordent, d'autant plus que le français, ils savaient le parler. On apprend une seule fois dans la vie à lire. Après, ensuite, on tâtonne dans les autres langues, mais on apprend. Donc, ces apprentissages fondamentaux, il faut les faire dans la langue qui, en plus, a aidé et a conforté, puisque dans la société, elle est en position de discrimination, de rejet, et même en situation d'interdit, puisque en France, le pays des Lumières, soi-disant, toutes les langues historiques de France sont en régime d'interdit, interdit actif. Voilà, donc il faut le dire.
Oui, c'est bien de le savoir. Oui, c'est bien d'en prendre conscience, parce que c'est vrai que la première fois qu'on a parlé de ça ensemble, j'ai été très surpris de cette position-là. Et effectivement, c'est une chose qui existe, mais dont on n'est absolument pas conscient quand on n'est pas... moi, je parle pas je n'ai pas de langue régionale, et c'est vrai que c'est pas quelque chose dont j'étais conscient. Et c'est vrai qu'il faut l'entendre pour se dire, mais oui, c'est vrai, au fond. Je voudrais qu'on aborde un sujet complètement différent. C'est un petit peu votre modèle financier. Vous avez parlé d'école laïque, et donc est-ce que ça veut dire que comment ça fonctionne financièrement? Qui paye les enseignants? Qui paye les bâtiments?
Alors, Mercès à Bayrou. Bayrou a fait que en 84...
Bayrou, ancien ministre de l'Éducation nationale.
Voilà, qui était ministre, qui a été assez courageux. Et donc en 93, il nous a fait rentrer dans le cadre de la loi de 59. C'est-à-dire qu'on a des écoles qui, dans leur grande majorité, sont contractualisées et qui, quand sont créées, n'ont comme perspective que d'être contractualisées. Et donc, dans le cadre des écoles contractualisées, nous participons au service public. On a une délégation de service public, en quelque sorte. Même pas qu'en quelque sorte. Et donc, c'est l'État qui finance les professeurs pour les classes contractualisées. Ensuite, les mairies doivent payer ce qui est obligatoire et légal, un forfait, qui en général d'ailleurs n'est pas réel, parce qu'ils ont fait des coquineries, enfin bref, ils ont sorti plein de choses. Mais enfin, néanmoins, ça existe. Voilà, il y a une adhésion à l'association, et puis des fois, on participe selon les situations. Le principe chez nous, c'est que l'enseignement est gratuit. Et donc, mais par contre, quand il y a des situations économiques ou que ça devient très difficile, des fois, la participation à la par exemple aux cantines, etc. Tout ça, c'est facturé, mais c'est un peu comme dans toutes les écoles.
Ouais.
La cantine, la garde arrière, tout à coup, ça doit être payé, c'est payé par les familles.
D'accord.
Voilà.
Okay, d'accord.
Donc on a un modèle qui peut être stabilisé. À Montpellier, c'est très bien. À Montpellier, on a une mairie qui nous aide vraiment très bien et qui aide vraiment bien les calendrettes à cause d'une bonne cause. Il y a des endroits, c'est la guerre avec les mairies, c'est compliqué, qui ne défendent pas leur patrimoine culturel. Hein, c'est quand même désastreux. Voilà. Donc, le principe, c'est que nous, on a des écoles qui sont laïques, qui sont ouvertes et qui sont le plus possible gratuites, tout en ayant la réserve qu'il faut bien qu'il y ait une association qui, elle, qui supporte l'école. Donc il y a une adhésion à une association qui est l'association Calandrette Locale.
D'accord, je comprends. Ok, d'accord. Ben, on va se faire une petite pause musicale. Je crois que vous avez choisi un morceau, donc je vous laisse le présenter.
Oui, c'est Patrick Lucantaire qui a fait une belle canson en Titania et Zimbo Cantaire a fait des belles causes.
Com un solel, com veig a mai, com una mà que existis pas. Tu, los ulls barats, donant as mas, dintre de l'art, du món de mort. Et ai mi, eu cridant ton nom d'aquel canto du monde biel, du monde folle, et taimi. Comme aquel blat qu'en s'éménat et qui jamais donna des fruits. Tu, comme aquel lune qu'en crée perdue, comme une ausselle qui semble mute. Et taimi, eu gridant ton nom d'aquel canto du monde biel, du monde folle, et taimi. Comme un passat, tant amagat, comme une historia sans vertat. Mas tu, comme un mari, concrétion mort, et paye un jour que dintre le port, et taimi. Eu, cridant ton nom d'aquel canto du monde biel, du monde folle, et taimi. Eu, ma qui que canti ton retour, ma qui que canti, oh mon amour. Et taimi.
Eh bien, nous sommes aujourd'hui avec Jean-Louis Blainet, qui représente les écoles Calandrette. Et j'aurais une question, après cette petite pause musicale occitane, une question sur les chiffres, un petit peu savoir, vous nous avez dit qu'il y avait 550 élèves sur Montpellier, mais savoir un petit peu, donc, sur le périmètre d'action, je dirais, des écoles Calandrette, combien d'établissements, combien d'élèves, et puis peut-être combien de... comment ça se répartit un petit peu, voilà, je vous laisse...
Voilà, dire que, oui, sur l'ensemble occitan, qui n'est pas la région Occitanie, qui est une partie sur l'ensemble occitan, voilà, donc on a à peu près 4000 calandrous, on en a à peu près 300 en secondaire, et le reste en primaire, on a 67 écoles quand même, ça commence
d'accord.
à faire,
ça commence,
4 collèges, un début de lycée à Montpellier,
d'accord.
Voilà, donc ça fait du monde, et là, pour tout ça, il y a à peu près 235 enseignants.
D'accord.
Voilà, et puis un peu plus de, entre 320 et 340 employés non enseignants.
Oui.
Parce que dans les écoles,
il faut pas
oublier que dans les écoles,
il faut faire du ménage, donner à manger.
Voilà, il y a beaucoup de personnel qui n'est pas le personnel enseignant.
Les administratifs,
les ACM, celles qui s'occupent des assistants maternels, etc. Donc ça fait à quoi faille une belle famille.
Ouais.
Et puis bon, quelques milliers d'associatifs quand même, plusieurs centaines d'associatifs.
Qui sont des parents d'élèves en général, j'imagine.
Qui sont des parents, des fois des militants de la langue, mais
d'anciens
voilà.
élèves peut-être aussi.
Oui, d'anciens élèves, d'anciens parents, même on a des grands-parents aussi,
enfin,
on a beaucoup de... Mais ça fait, pour faire un match à tout à coup, il faut du monde. Quand même.
D'accord. Et donc, puisqu'on parle des enseignants, ce qui serait intéressant, c'est que vous nous disiez un petit peu quel modèle éducatif vous avez choisi, quelle pédagogie vous a inspiré au départ, et donc est-ce que la pédagogie que vous avez choisie au départ, est-ce qu'elle est toujours la même en place, ou est-ce que ça a évolué au fil du temps?
Bon, déjà, premier point, on a une originalité pédagogique, puisqu'on est en immersion. Donc, ça veut dire que dans le même temps scolaire, les enfants, ils doivent, dans la même scolarité, apprendre deux codes.
Oui.
Ce qui veut dire qu'il faut être plutôt performant.
Oui.
Puisque là où on peine à en faire qu'un, et il faut que nous, on arrive à en faire deux et convenable.
Tout à fait, oui.
Et donc, il y a l'immersion. Et l'immersion, c'est quand même déjà une orientation pédagogique en soi. Et ensuite, nous, on est depuis... Parce qu'il y a une tradition, occitane de recherche pédagogique. Par exemple, nous, on est très inspirés par Freinet.
Ouais.
En général, en France, on passe sous silence le fait que Freinet était un occitan. Et comme quand j'avais vu des rétrospectives sur Cézanne, t'es l'occasion par la punchute, il te parlait pointu à crever les yeux et les oreilles, alors que ben oui, il était d'un certain endroit.
Ouais. Et donc, il ne bougeait pas beaucoup.
De surcroît. Donc, Freinet, pour nous, est très inspirant. Et en plus, c'est très important, il y a une cohérence dans la chose pédagogique, puisque Freinet, c'est la coopération. C'est le refus de la compétition, comme on fait dans notre société. Et c'est que les grandes choses se font en coopération. Et l'individu se développe dans la coopération, plus que dans la compétition. Et en plus, quand on travaille en coopération, avec l'enfant au centre, son envie de faire et le fait de travailler en coopérative, mais de réaliser, tout ça, ça fait des enfants qui sont acteurs et donc locuteurs.
Oui.
Puisqu'ils travaillent en coopération, ils échangent entre eux. Donc ils parlent. Or nous, un objectif, des fois, c'est justement que les enfants parlent la langue.
Oui,
parce que
oui,
les
sûr.
Objectifs, etc. Donc il y a une cohérence dans le choix. Et en plus, dans l'intérêt, bon, ben, c'est vrai qu'on apprend plus facilement à lire quand on écrit des lettres ou qu'on reçoit des lettres d'une autre école, par exemple. Ça, c'est tout un travail très pratique et très sur l'envie d'apprendre.
Ouais.
Voilà, donc nous, on est très pédagogie Freinet. C'est une pédagogie Calandrette parce qu'il y a l'immersion, il y a Freinet. La pédagogie institutionnelle aussi, c'est des gens qui suivent dans les piades de Freinet, dans la suite, la pédagogie institutionnelle qui a été inventée justement en Pays d'Oc et justement dans les traces de la psychiatrie institutionnelle.
Ah oui, d'accord. Mais
c'était à Saint-Alban que ça se passait avec Tosqueyes, réfugié catalan.
Ouais.
Et on a trouvé qu'il y avait des choses à transposer dans la pédagogie et à s'inspirer. Donc... Voilà, on a un cocktail qui s'appelle la pédagogie calandrette et qui est pour que, bon, par exemple, nous, depuis 35 ans, on n'a jamais, même presque bientôt 40 ans, on n'a jamais eu de notes, puisqu'on a une autre façon de faire. Les enfants sont acteurs, les enfants font des lois, ils ont un conseil. Pendant le conseil, ils élisent un président. Pendant que la séance du conseil, même le maître d'école, demande la parole au président.
Ah oui.
Voilà, il n'est pas Deux ex machina. Donc il y a tout un rapport justement pour faire de l'enfant citoyen.
Et ça, c'est vrai dès les premières classes du primaire.
Alors, Père Lucuncel, ouais, ça commence dès le début. Après, Père élégit un président et un président qui va diriger une séance, il faut arriver en CP. Voilà.
D'accord.
Voilà, un CP, là, il commence. Donc déjà, tout le travail se fait, mais ils commencent, ils font des conseils, ils font des lois.
Et donc au cours du conseil, si l'instituteur veut parler, il doit demander la parole au président.
Absolument, puisque pendant le conseil, il y a un président, il y a un secrétaire. Quand quelqu'un est critiqué, il doit être défendu.
D'accord.
Voilà, enfin bon, on fait les lois.
D'accord.
On fait les lois de la classe. Il y a un conseil dans l'école aussi, on fait les lois de l'école. Donc, qui peuvent avoir des conséquences. Alors, ça a l'air petit tout, mais enfin, bon, par exemple, ma dernière, elle était encore bien pitchoune. Bon, mais dans leur classe, ils ont décidé, ils ont une nouvelle loi, que le goûter était collectif. Alors donc du coup on avait une banaste et chaque famille devait faire à tour de rôle le goûter pour tout le monde.
Ouais.
Alors qu'avant, ou dans une autre classe, la loi avait été le goûter il est individuel.
D'accord.
On est en marre du collectif. Mais ça a l'air de rire, je dis cet exemple.
Mais c'est un bel apprentissage de la démocratie.
Mais évidemment, mais bon, tant qu'il faille des scoles ou titanes, autant qu'elles ne soient pas trop couillounes, autant qu'elles soient intelligentes, qu'elles essaient. Qu'elles essaient, je ne dis pas qu'on est intelligent, on n'est pas des phénix, mais on essaie. On est modeste et on essaie de faire de l'inventivité et on continue d'ailleurs. C'est pour ça que moi j'ai créé un institut de formation des maîtres qui est commun d'ailleurs aux cinq langues dont j'ai parlé tout à l'heure, et pour former les maîtres, parce que nous il faut qu'on les forme aussi à cette pédagogie, jusqu'au format à la langue mais aussi à la façon de faire.
Et justement, alors comment vous les recrutez, ces maîtres?
Alors ils ont une trafic difficile parce que actuellement on a un effondrement, enfin on a un repli très considérable de l'enseignement des langues régionales, et les réformes ne vont pas dans le bon sens pour ça, ce qui fait qu'au secondaire il y a de moins en moins d'Occitan qui est enseigné de façon massive, et donc c'est un peu difficile d'avoir des gens. Alors bon, on forme, et c'est pas simple. Et puis bon, quand on sera comme les Bretons ou les Basques qui ont fait un secondaire, hein, les Bretons ils ont un lycée qui a 370 gamins, enfin jeunes.
Ouais.
Bon, ça veut dire qu'ils sortent une palanquée chaque année de jeunes qui sont formés, qui ont une frite, qui sont complètement vraiment bilingues, même trilingues, parce qu'ils sont beaucoup.
Oui, parce qu'en sortant du lycée, ils ont appris d'autres langues.
Ils cartonnent sur l'anglais parce que les Bretons, donc ils s'occupent des langues du Grand Breton, là. Et donc voilà, nous, on a une approche qui est aussi multilingue, hein, tout le temps. Hein. Alors, ça fait partie de la pédagogie. Nous, on fait famille des langues, et même musique des langues. Quand ils sont tout péquelettes, on fait musique des langues. On fait entendre des langues et on leur fait distinguer comment elles peuvent se rapprocher par des familles, etc. Après, on fait famille des langues. Et c'est vrai que pour les langues latines, les enfants de calandrette, ils ont beaucoup de capacités. Et
oui, j'imagine. Ouais.
Et donc, on essaie de le passer de compétences passives à compétences actives. Mais bon, la France qui est assez fermée là-dessus, donc on est obligé de faire un peu de tricher au secondaire. Mais enfin, bon, on est dans un pays qui est très bloqué sur des questions de pédagogie. Bon, nous, on essaie d'avancer.
D'accord. Oui, parce que quand vous parliez de la difficulté de recruter, c'est vrai que pour recruter des enseignants en collège ou en lycée, il faut trouver des enseignants qui parlent déjà l'occitan, ou ça veut dire que vous leur apprenez l'occitan?
Alors, il y a de tout. Il y a de tout. Il y en a qui arrivent, qui savent la langue, et il y en a qui ne savent pas. Et
bien,
on fait, mais nous, on a un principe. Hein, on dit quelqu'un qui est intelligent, on peut lui faire une piqûre d'occitan. Mais par exemple, un occitanophone qui est bête comme une asée, c'est difficile de lui faire une piqûre d'intelligence. On n'a pas trouvé la recette. On aimerait, parce que le monde irait mieux si on avait la recette.
C'est vrai, ça pourrait servir à d'autres cas.
Puis on ferait fortune avec ça, parce que comme la bêtise est assez généreusement distribuée sur la planète, donc on aurait de quoi avancer. Mais donc voilà. Après, nous, par la formation, par exemple, nous, on fait une formation, mais on a mis 2 ans de plus pour la formation.
D'accord.
Alors, c'est pas 2 ans sans travailler, mais c'est 2 ans de formation en plus.
Voilà. Oui, c'est 2 ans de formation, mais le maître enseigne déjà, il est dans la pratique.
Déjà, nous, pour qu'on valide les gens, il faut qu'on voit qu'ils sont faits pour le métier.
Ouais.
Et pas uniquement dire, il suffit d'être instruit.
D'accord.
Parce que le rapport aux enfants, ça suffit pas d'être instruit.
Tout à fait.
Voilà, c'est comme pour les médecins, il suffit pas qu'ils soient instruits. S'ils ont peur des malades, c'est pas bon.
C'est sûr.
Voilà, après on fait des médecins qui savent parler aux machines, mais pas aux gens.
Ouais.
Alors, à qui ils mitchat de limonade. Voilà, nous on essaie que ce soit...
D'accord. Et est-ce que vous avez des retours, j'imagine? C'est-à-dire, est-ce que les élèves qui sortent des écoles Calandrette, est-ce qu'ils ont des résultats qui sont différents des autres? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez amené un plus et qu'ils s'adaptent mieux à leur vie future? Est-ce que vous avez un retour là-dessus?
Ils sont très adaptables. Ils ont un côté différent. Bon, on n'a pas beaucoup de secondaires vraiment encore massifs. Mm-hmm. Hein, on a jusqu'à la 3e. Bon, ça commence à être un peu notable, mais bon, on sait, et c'est pour ça qu'on fait le lycée maintenant, que pour la scolarité, la fleur, qu'est l'enfant comme ça, le passage difficile, c'est le moment du collège. Et ensuite, ça expélisse au moment du lycée. Et c'est vrai que de ne pas voir le lycée, c'est un peu une couillonnade, quoi.
C'est frustrant, oui.
C'est frustrant parce qu'on arrête au milieu du chemin, on a fait le plus dur et on ne fait pas le bon. Voilà. Donc, la suite, nous, on sait que, vu la façon dont ils ont de travailler, ils ont un rapport très différent aux adultes, ils ont une façon aussi par rapport à cadrer les choses, à s'autonomiser, qui est très différente. Voilà, donc ça, ils le disent tous, et on le voit. Et d'ailleurs, quand ils vont dans des collèges, puisqu'ils viennent pas au collège à Calandrette, il n'y a pas prou. Donc ils viennent et souvent ils sont délégués de classe, enfin je veux dire, ils sont en responsabilité.
Ils s'investissent plus dans la vie communautaire.
Voilà.
D'accord.
Mais juste dire que, j'oubliais de dire peut-être qu'on avait 4 collèges, et que ça c'est un truc très important.
4 collèges où à quel endroit?
Alors 4 collèges, on en a un à Montpellier, un à Maraussan à côté de Béziers, un à Toulouse et un à Pau.
D'accord.
Voilà, et bon, le principal est à Montpellier, et où on a un lycée. Enfin, le lycée qui démarre.
D'accord.
On a seconde et première.
Seconde et première.
Seconde et première. Les encarts tout péquelettes, mais bon, il faut commencer faire les choses.
Ben écoutez, moi je trouve ça passionnant. Je regrette complètement de ne pas avoir connu ça plus tôt quand j'ai envoyé mes propres enfants à l'école. Mais bon, ça se fera dans une autre vie, j'espère. Ce que j'aimerais savoir pour nos auditeurs, c'est un petit peu comment on peut vous contacter, s'il y a des gens qui sont intéressés. Est-ce que vous avez une adresse internet ou un numéro de téléphone?
Oui, une adresse internet, et même si on va sur internet et qu'on tape Calandrette, Calandretta, on verra qu'il y a Confédération Calandrette. Et là, il y a un site internet où il y a de la documentation, il y a les effectifs, les endroits où sont les écoles, et puis un peu des références sur la pédagogie, et puis ça renvoie à d'autres sites.
D'accord.
Hein, ça renvoie au site de Apprenez, de l'ISLRF, ce qui sont les organismes de formation.
Ok.
Sites sur lesquels il y a beaucoup de textes qui concernent la pédagogie.
D'accord.
Et ça, c'est très important. Dire juste une chose.
Oui, allez-y,
dire, bien sûr. On a 4 principes, et on pense qu'on répond à des besoins de la société. Ce qu'on appelle les 4 pilars, les 4 piliers de Calandrette. Donc la première, c'est l'immersion. Le deuxième, c'est la pédagogie Calandrette, c'est-à-dire pédagogie freinée, pédagogie institutionnelle. Donc ça fait 2 pilars qui sont pédagogiques. Le troisième, c'est associat per fa escola. C'est-à-dire on est associé pour faire école. C'est-à-dire que l'école, elle est gérée de façon conjointe entre les associatifs, un peu les enfants aussi, de plus en plus quand c'est dans le lycée, dans le secondaire, et les enseignants.
Ouais.
L'école, elle n'est pas la propriété des enseignants, elle est aussi un projet commun. et qui est co-géré. Co-géré, ça ne veut pas dire qu'on prend la place des uns des autres, mais qu'on travaille ensemble et qu'on définit ensemble. Donc, associat per fa escola, et puis le quatrième pilar, c'est-à-dire que faisant la langue, apprenant la langue d'une culture. Voilà. Donc, il faut que chaque école soit un foyer culturel. D'accord. Et ça aussi, ça lui donne une tension. C'est-à-dire, ouais. ça la pousse à avoir une action, à être en tension, c'est-à-dire en proposition d'action.
D'accord.
Et ça, c'est important parce que ça donne de la dynamique.
Oui, bien sûr.
Donc, on pense que on a un modèle qui représente quelque chose. Alors, nous, on ne se dit pas école alternative.
Mm-hmm.
Parce qu'alternative, c'est un grand sac où il y a tout.
Mm-hmm.
Hein, c'est tout. Ça peut être le plus islamique comme le truc, il se dit alternatif, Pekaïr, couillon, tu m'as fait rire. Non.
C'est un autre débat, on en reparlera.
C'est un truc très négatif. Non, on est très positif. On est scène d'école occitane.
Mm-hmm.
Alors, objectivement, on présente une certaine alternative, peut-être, mais en fait, on est très défini.
Mm-hmm.
Et on est défini, on est très en positif. On sait exactement ce qu'on veut. Mm-hmm. On travaille à l'améliorer. Mmh. De longue, c'est pour ça qu'on a la formation qui est après et maintenant le cœur vivant de Calandrette, c'est justement le lieu, le centre formation, parce que, enfin, l'établissement de formation, centre, on aime modérément le mot, et donc, parce que c'est là que se rencontrent les expériences, que s'échange justement et que se fait l'invention.
D'accord.
On parle de l'invention pédagogique qui est le moteur de Calandrette, avec la pulsion pour la culture.
D'accord. Ok, ben merci beaucoup Jean-Louis Blenet, merci d'être venu. J'ai parlé de vous comme comédien, j'espère que vous viendrez un jour nous parler de théâtre occitan aussi.
Oh my, on m'est plaisé.
Moi aussi, ça me fera très plaisir, donc je vais mettre ça sur mes tablettes et nous en reparlerons. Merci beaucoup et au revoir.
Allez, Adiciat, c'est Mercès.
Le domaine des possibles, une émission proposée par Christian Faure. Thank you.